cœur. T'es déshonneur. T'aurais dû mettre un costard. T'as pas eu le temps de t'expliquer. Allez, hop, tu t'es retrouvé embarqué en garde à vue. En garde à vue.
Bonsoir, c'est Ondes Noires, une émission sur l'actualité du polar présentée par la Noiraude.
Eh bien bonsoir, l'actualité du polar, on va dire très très brûlante, c'est les premiers titres d'une nouvelle édition qui vont sortir le 17 mars, donc c'est-à-dire après-demain, et c'est un nouvel éditeur qui se lance, les éditions Après la Lune. Alors Jacques nous a trouvé un petit morceau de musique un super jeu de mots,
n'est-ce pas ? J'ai trouvé très malin, puisqu'on allait avoir Après la Lune, il fallait au moins y aller, donc j'ai pris une chanson de Frank Sinatra, mais chanté ici par Julie London, et le morceau s'appelle « Fly me to the moon ».
Voilà, et pendant ce temps-là, on joindra l'éditeur. Merci, à tout de suite.
Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
Voilà, on a un petit peu chanté Julie London pour pouvoir avoir le maximum de temps avec Jean-Jacques Rebout, qui j'espère est à l'antenne. Bonsoir Jean-Jacques Rebout.
Bonsoir, je suis là.
Voilà, donc un petit morceau Fly Me to the Moon pour introduire les éditions de Après la Lune.
Ah, c'est gentil.
Voilà, et donc une question qu'on va vous poser moult fois. Pourquoi ce nom, Après la Lune ?
Après la Lune, parce qu'après la Lune, tout est possible. Je lis ce qu'il y a sur le dossier de presse, hein, j'ai pas de mérite.
Rappelez-moi, c'est bien vous l'éditeur, c'est
après
ça ?
Après la Lune, c'est déjà demain. Non, en fait, au début, j'avais une cinquantaine de noms, tous plus fantaisistes les uns que les autres. Et j'ai fait un petit brainstorming sur Internet avec les copains et tout le monde m'a dit le mieux, c'est Après la Lune.
Il y a personne qui a dit que c'était le moins pire quand même.
Non.
Bon,
ça a plu à tout le monde. Après la Lune, ça fait rêver tout le monde, les petits, les grands. Et comme on démarrait avec une collection de textes sur l'enfance, la maîtresse en maillot de bain, donc je trouvais que ça tombait encore mieux.
Donc voilà. Justement, je crois que la question suivante, bah, vous y avez déjà commencé à y répondre. Est-ce qu'il y a une ligne éditoriale sur l'ensemble des collections ou c'est le plaisir qui va primer ?
Disons que c'est un peu les deux. Si on commence par la première collection, donc qui démarre dans deux jours, La Maîtresse en maillot de bain, là, il y a vraiment une ligne éditoriale parce que non seulement ce sont des textes, ce sont uniquement des textes de commande, donc sur le thème de l'enfance. Donc je vais vers des écrivains, je leur demande en gros de se réapproprier un souvenir d'enfance qu'ils ont vécu ou qu'ils peuvent à la limite avoir complètement inventé, ça, puisque personne n'ira voir. Ce qui est vrai, ce qui est faux dans l'histoire qu'il raconte. Donc il y a des contraintes de pas de style bien sûr, mais des contraintes de durée puisque les bouquins ne doivent pas dépasser 60 pages. Donc là il y a une ligne éditoriale. La ligne éditoriale, c'est parler de l'enfance au travers d'un fantasme enfantin ou d'une cassure, d'une fêlure qui remonte à la surface ou soit une cassure qui était un petit peu latente ou alors une cassure, pour certains auteurs, c'est le cas, qui ressurgit au moment de l'écriture du livre. Donc, pour La Maîtresse en maillot de bain, il y a une ligne éditoriale, oui. Mais il n'empêche que les livres seront, je l'espère, j'en suis sûr, même assez différents. Quoi. Il y aura une palette de livres complètement différents, tout en sur le même thème.
Alors, vous avez parlé de souvenirs d'enfance, mais je crois avoir lu, je ne sais plus si c'est sur le site ou dans un dossier de presse, que c'était même un peu tordre le cou aux souvenirs d'enfance. C'est une vision.
Oui, disons que donc ce sont pas des romans puisque ce sont des novellas, ce sont des textes de 60 pages. Donc si on compare avec le roman, ce sont pas des souvenirs d'enfance. Disons que le souvenir d'enfance, tout le monde en a. Beaucoup d'écrivains ont raconté leurs souvenirs d'enfance avec plus ou moins de bonheur. Et l'intérêt de raconter un souvenir d'enfance, c'est de le transfigurer un petit peu. Sinon, si on se borne à raconter un truc qu'on a vécu quand on avait 7 ans, 8 ans ou 10 ans, il y a de fortes chances que ça tombe un petit peu à plat et que ça soit du niveau de la rédaction de 6e. Donc l'idée, c'est de pas de réinventer un genre, parce qu'on ne réinvente jamais un genre, mais c'est de mélanger vraiment le vécu, le souvenir, puisque le propre des souvenirs, c'est qu'ils se déforment complètement. On oublie, et, ou alors on croit se souvenir des choses, et donc en réécrivant, j'ai remarqué que certains auteurs croient, enfin d'après ce qu'ils m'ont dit, d'après ce que j'ai compris d'après leur texte, croient réinventer des souvenirs, alors qu'en fait, ils les ont peut-être vraiment vécus. C'est un peu confus ce que je raconte là.
Donc
tout ça, ça se mélange, et l'intérêt, c'est que le lecteur, il se dise, il prenne le livre, il prenne La maîtresse en maillot de bain, et il le lit.
Ça, c'est un peu confus, prendre La maîtresse en maillot de bain.
Bon,
oui. Je n'en dirai pas plus.
Non, La maîtresse en maillot de bain, c'était la petite comptine, haut les mains, peau de lapin, La maîtresse en maillot de bain. Et puis, on a une autre aussi que moi, je n'avais personnellement jamais entendu quand j'étais petit. C'était, tu vas voir La maîtresse en maillot de bain. Donc, il y a vraiment le fantasme enfantin, mais le fantasme de mec, de petit garçon, quoi.
De petit garçon. Alors, si je ne m'abuse, j'ai lu les premiers auteurs qui allaient paraître et ceux qui ont accepté de jouer le jeu.
Ouais.
Ça a l'air d'être tous des auteurs issus du polar, je me trompe?
Disons que pour commencer, c'est un peu le cas. Alors, la raison, c'est que parmi les écrivains que je connais beaucoup plus d'auteurs de polar. Donc, ceux qui m'ont dit oui le plus vite, ce sont ces gens-là que je connais le mieux. Mais dans les auteurs qui vont venir, il y a Marie Desplechin, qui n'est pas du tout un auteur de polar. Bon, Yasmina Radra a commencé à publier du polar chez Baleine, mais maintenant, on n'est plus du tout un auteur de polar. Et il y a Paul Fournel au mois de juillet qui est un oulipien qui lui est pas du tout auteur de polar. Donc s'il y a des auteurs de polar au début, c'est parce que ce sont les gens qui m'ont répondu le plus vite parce que je les connaissais, voilà.
Mais c'est peut-être pas aussi un petit peu parce que ils apprécient de faire ce genre d'exercice d'écriture plus peut-être que d'autres.
Ah, donc, j'avoue, je me suis pas posé la question.
Ils parlent souvent de transgression,
ouais,
et de
décès,
ouais, d'écriture, donc c'est peut-être des auteurs particulièrement.
Peut-être que les auteurs de polar sont encore plus écorchés que les autres, je ne sais pas.
En tout cas, ils le disent plus, mais bon.
Oui, voilà.
Est-ce que ça sera des textes qui seront forcément noirs ou pas?
Ah, pas du tout.
Non.
C'est pas,
on va parler d'une autre collection,
ouais,
qui.
Non, les premiers, là, L'argent de la quête d'Hervé Jaouen. À 5 ans, petit Iwen écrit si bien, il ira loin d'après sa sœur Odile, et si on en faisait un curé, donc ça, c'est ce que je reprends, ce qui est sur le dossier de presse. Donc c'est une petite vengeance contre la religion catholique, c'est pas du tout noir. Celui Yasmina Radra, La rose de Blida, il est un peu noir. Dominique Sylvain, Mon Brooklyn de 4 sous, c'est vraiment pas noir du tout. Et celui que j'ai moi-même commis, non, c'est pas noir. Non, c'est pas une collection noire. En revanche, dans ceux qui vont venir, notamment au mois de juillet, il y en a un qui s'appelle, de Élise Fugler, qui est une Marseillaise, qui s'appelle Maman la mort, où elle parle du cancer de sa maman quand elle avait 8 ans. Celui-là, il est très 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 noir. Mais c'est quand même l'exception, quoi.
Pourquoi le choix des novellas? Pourquoi n'avoir pas laissé, disons, la longueur en libre choix à l'auteur?
Ben parce que l'idée, c'était de faire une collection avec 16 titres par an, avec la même longueur de page, avec on voulait privilégier l'effet collection, c'est-à-dire qu'il y a les petits bouquins qui sont de petit format, on en sort 4 le même mois, avec un présentoir, pour vraiment que l'idée, c'est que le lecteur, il aille chez son libraire et il voit qu'il y a 4 livres qui sont sortis en même temps, et sur la couverture aussi, la première chose qu'on voit, c'est, avant de voir le nom de l'auteur et le titre, on voit La maîtresse en maillot de bain, de machin truc, de bidule, voilà. Donc, il fallait que les livres soient calibrés. En plus, c'était lié aussi à des soucis bassement matériels, parce que j'imprime les livres par paquet de 4, donc il fallait qu'ils soient de la même longueur. Et donc, ça tombe très bien, quoi. Et c'est aussi, moi je pense qu'on n'arrête pas de dire qu'en France, le nouvelle, ça marche pas, mais personnellement, j'arrête pas de rencontrer des gens qui lisent des nouvelles et qui adorent ça, et qui disent pourquoi il n'y a pas plus de nouvelles.
En tout cas, il y a de plus en plus, c'est assez récent, mais depuis 18 mois, il y a de plus en plus de recueils de nouvelles qui sortent,
oui,
soit mono-auteur, si je peux me permettre, soit une anthologie,
oui,
à partir d'un thème, et ça se voit de plus en plus.
Oui, oui. Donc, 64 pages, c'est bien. Il faut pas non plus que... Bon, il y aura une exception. Par exemple, Hervé Prudhon, qui m'a fait un texte.
Hervé Prudhon, c'est merveilleux. On l'a...
Ah, Hervé
on
Prudhon,
lui a redonné envie d'écrire.
Hervé Prudhon, c'est marrant parce que j'ai relu pour la 5e fois son texte aujourd'hui parce que je faisais les épreuves. Ça s'appelle La Sainte Journée. Il parle de sa communion solennelle. Et il raconte les problèmes qu'il avait quand il avait 12-13 ans parce qu'il était obèse. Et quand je l'ai rencontré, je l'avais pas vu depuis longtemps, je lui ai dit, mais t'as vraiment été obèse, on a du mal à le croire. Et il m'a dit oui. Et donc, sur le coup, s'il m'avait pas dit que c'était la vérité, j'aurais vraiment pu croire en tant que lecteur qu'il racontait vraiment des conneries, quoi, du début à la fin. Alors c'était vrai. Et il m'a fait un texte vraiment que moi j'adore.
Je reviens au côté financier. Donc, pour vous, en tant qu'éditeur, c'est un avantage, mais est-ce que c'est aussi l'idée de proposer des livres à un prix très raisonnable pour des gens qui, finalement, n'ont plus les moyens, maintenant, de mettre 20 ou 25 euros dans des gros pavés qu'on nous propose ?
Oui, bien sûr, il y a ça. Alors, encore qu'on pourra me faire le reproche que 6 euros pour un petit bouquin de 64 pages, c'est pas donné, bon, mais on n'a pas les moyens de Librio ou de Folio à 2 euros, on peut pas tirer à 25 000 exemplaires. Donc,
sans compter que ce sont des originaux.
Voilà, et puis bon, les bouquins sont jolis, il y a une photo de l'auteur à la fin, donc on a essayé de faire...
Ça va dépendre des auteurs, hein. Non, là, je plaisante.
Oui, probablement. Ouais.
Non, je plaisante. Alors on va partir parce que malheureusement le temps passe. La deuxième collection, avant de passer à Lune Blafarde qui nous intéresse beaucoup, c'est Tous les possibles. Pourquoi ça va être tout le reste, tous les possibles?
Alors c'est la troisième, ça.
Oui, en fait. Mais je gardais Lune Blafarde pour la fin, parce
d'accord.
qu'on est quand même
alors,
une émission
possibles,
sur le polar.
L'idée, c'est de publier des romans qui ne sont pas des polars, ni des romans noirs, qui sont des romans autres, dans une collection grand format, mais qui restera à prix modique, parce que moi, je vais essayer qu'il n'y ait pas de livres au-delà de 13-14 euros, même s'ils sont assez épais. Et l'idée, c'est que, là, je vais parler de mon cas personnel. Moi, j'ai un livre qui devait sortir en 2003 chez un grand éditeur parisien qui s'appelle De Gaulle, Van Gogh, Ma femme et moi. Et finalement, le livre n'est pas sorti, j'ai récupéré les droits. Et je me suis retrouvé avec ce bouquin sur les bras. Et, en fait, au début, c'était ça l'idée. C'est un peu à cause de ce livre que j'ai monté cette maison d'édition. Je me suis dit, je vais pas pouvoir le placer, personne n'en voudra. Et donc je me suis dit je le publierai dans une collection qui s'appellera Tous les possibles. Puis après la lune est arrivée et puis il y a eu d'autres collections à côté. Mais j'ai remarqué que très souvent de bons livres, je veux pas dire que le livre dont je vous parlais est bon ou pas, ça c'est pas le, enfin j'espère qu'il est bon.
Déjà le titre est allé.
Ouais. Mais souvent de bons livres sont, enfin c'est une commodité assez idiote je trouve pour les éditeurs. De refuser des livres en disant « c'est bien ce que tu nous as fait, c'est génial, c'est pétillant, c'est drôle, on se marre, c'est intelligent, mais c'est pas pour nous ». Et là, c'est un peu faux cul, je trouve, de la part des éditeurs. Mais c'est quelque chose qui se...
Bah, faut bien trouver une excuse de
voilà,
temps en temps.
Voilà, faut bien trouver une excuse.
Donc, voilà, et puis les codifications en France, on aime bien ça, contrairement voilà. à d'autres pays. C'est vrai que les gens sont très, très, très classifiés.
Voilà. Donc, dans tous les possibles, il y aura des romans. De toutes les couleurs. Enfin, il pourra y avoir des romans noirs, notamment en octobre, je vais rééditer un livre que j'avais édité chez Canaille de Jean-Pierre Andrevon, qui s'appelle Le dernier dimanche de Monsieur le Chancelier Hitler, qui raconte les trois derniers jours d'Hitler, qui est une uchronie où Adolf Hitler a le cancer de la prostate et il erre dans les rues de New York en 1956. Donc ce sont vraiment... c'est vraiment un ovni littéraire. Et il y aura des ovnis littéraires, mais il n'y aura pas que ça non plus. Et il y aura aussi des essais. Je me suis dit que on vivait des temps difficiles au niveau social, politique, etc. Et donc de plus en plus de maisons d'édition qui publiaient, soit les maisons d'édition qui publient des livres un peu militants, soit ce sont les petites maisons qui ont bien du mal à fonctionner parce qu'ils n'ont pas d'argent, ou alors ce sont des maisons qui se font racheter par les grands groupes, je pense à La Découverte, et donc il me semblait qu'après La Lune, ça pouvait être bien d'éditer des livres, de temps en temps, des livres militants.
Alors, dernière collection, donc en fait la deuxième, mais je voulais la garder pour la fin,
ouais, bien
Lune
sûr.
Blafarde, Lune c'est Blafarde. Annoncé une collection de littérature criminelle.
Ouais.
Quelle distinction vous faites avec le terme de littérature policière, littérature criminelle? C'est plus vaste?
Non, en fait, il y a deux raisons. Enfin, la première, c'est que je n'aime pas du tout l'expression littérature policière ou
c'est
roman
policier. C'est comme les chiens.
Parce que je trouve que, d'une part, je trouve ça un peu vieilli. Et puis, c'est un peu réducteur. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas lire de romans policiers parce que il y a un côté péjoratif à ça. Et puis, la vraie raison, c'est que je trouve que les termes littérature et policière sont complètement antinomiques. Ça peut pas aller ensemble. Donc là, c'est plus une raison politique.
Mais il y a un joli terme qu'on utilise, en particulier dans le milieu où on circule, c'est le terme roman noir aussi.
Ah oui, je l'aime bien aussi, oui, bien sûr. Mais bon, toutes les collections s'appellent noir, série noire, rivage noir. Donc, on voulait trouver quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Bon, alors donc Lune bafarde, la face cachée du crime, ça coule de source. Et je suis allé il y a un an en Pologne. J'étais invité à faire un débat dans une bibliothèque sur le roman noir. Et là-bas, de même qu'en Allemagne ou dans d'autres pays d'Europe, on appelle ça le criminalof, la littérature criminelle. Et je me suis souvenu qu'en 1982, Michel Lebrun avait publié un bouquin, une anthologie qui s'appelait « Le roman criminel à la Talente ». Et je me suis dit, c'est parfait. Et puis dans les enquêtes qui font souvent l'objet, qui font dans les romans policiers, dans les polars, il y a souvent des enquêtes, mais il faut pas oublier que dans le roman noir, il y a des policiers qui enquêtent, mais au début, il y a des victimes et des criminels.
Oui, et puis le crime peut être une métaphore de plein de faits qui n'ont pas de victimes, de gens assassinés.
Ouais.
Les premiers qui vont sortir, donc dans Lune blafarde, il y en a le 17 mars.
Non, alors ça c'est Lune blafarde, il y en a trois qui sortent à la mi-avril. Donc j'ai Sylvie Rouge, Corps mort, qui est un polar qui se passe à Granville. Dernier combat de Sylvie Cohen qui se passe à Marseille, donc par chez vous.
Par chez nous.
Ouais, et Enquête d'un père de Olivier Thiébault, qui est une espèce de road movie. Comme son titre l'indique, un homme de 40 ans découvre que son père, qu'il croyait mort, est toujours vivant. Et voilà, le retour sur le passé.
Ça me rappelle quelque chose, un ressuscité. Alors, on a juste encore une minute. Il y a quelque chose de très intéressant sur le site. Et d'ailleurs, vous allez nous donner l'adresse du site qui est très sympathique à visiter. C'est que vous faites de la VPC, vente par correspondance.
Oui.
Ça vous semble indispensable à l'heure actuelle maintenant de passer par là ? Pour la vente ?
Non,
c'est important.
Donc le nom du site c'est www.aprèslalune.com et non, la VPC, j'ai monté cette maison d'édition. Pour monter cette maison d'édition, j'ai eu plusieurs moyens d'avoir de l'argent, dont l'une était une souscription. C'est-à-dire qu'il y a 150 personnes qui m'ont envoyé de l'argent pour acheter des livres, pour les commander. Et maintenant je leur envoie les livres. Et je me suis aperçu que il y a de plus en plus de gens qui habitent dans des endroits où il n'y a pas de librairie et que c'est un moyen commode d'acheter des livres, mais on privilégie quand même la vente en librairie. C'est-à-dire avec un réseau quand même important de 300 ou 400 libraires qui auront nos livres.
C'est pas aussi un petit moyen, parce qu'on connaît les problèmes actuellement de certains éditeurs, et c'est pas péjoratif, petits éditeurs avec les problèmes de distribution, c'est pas un petit peu un moyen de contourner un petit peu ce...
Non, parce que j'ai un distributeur et un diffuseur qui sont assez efficaces, je pense. Donc, c'est un plus, disons.
D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup, Jean-Jacques Reboux. Et donc, longue vie aux éditions Après la Lune.
Merci beaucoup.
Avec les trois premières collections. Et à bientôt.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.